France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Raymond Mason fut le plus français, sinon le plus parisien, des artistes anglais. Sculpteur, très marqué par Henry Moore d'abord, mais surtout par Balthus et par Giacometti, il est connu pour ses bas-reliefs colorés parce que, disait-il, « une sculpture est inerte, mon but est de la rendre vivante et valide ». Raymond Mason est mort à Paris en février 2010. Les trois entretiens que nous allons entendre sont extraits d'une série datant de 1985.
Raymond Mason, un homme dans la foule, une série de Michael Gibson. Raymond Mason, artiste anglais, 63 ans, vit en France depuis 40 ans. Il expose jusqu'en novembre une centaine d'œuvres au Centre Pompidou.
En arrivant à Paris, c'était le mois de juillet 1946. Il faisait très chaud. Il n'y avait pas de taxi. Nous étions donc le genre d'étudiants qui débarquent à Paris avec une valise tenue par la ficelle et tout ça, et il fallait absolument quelque chose pour nous emmener où on allait. Alors mes amis, pour me faire plaisir, avaient pris un fiacre. Et non seulement cela, mais ils avaient demandé au cocher de faire un grand tour en passant par les Champs-Élysées, etc. Alors moi, couché dans ce fiacre, avec l'air chaud de l'été qui me ramenait l'odeur de cheval, j'ai eu l'attaque d'asthme de ma vie. Et ça a duré d'ailleurs 2 jours, et j'en parle parce que c'était la dernière. Je n'ai plus jamais eu une attaque d'asthme. Donc, même avec l'attaque d'asthme, évidemment, j'ai assez vu de Paris pour me convaincre que c'était un endroit tout à fait extraordinaire. Et dans ces années-là, c'était bien sûr. Je pense que le premier 10 années à Paris, enfin c'est parce que j'ai des jeunes peut-être, mais enfin, il me semble que Paris était à son plus beau. Ma vie donc a commencé à Paris avec un retard de 2 jours. Mais mes amis m'ont emmené le premier soir à Saint-Germain-des-Prés pour me montrer le Café de Flore. Nous ne sommes pas entrés, parce que déjà on pensait à l'argent, mais j'ai regardé au-dessus de le rideau et j'ai vu, la première chose que j'ai vue d'ailleurs, c'était un homme assis au milieu d'autres, en train de parler avec beaucoup de véhémence, gesticulant, les cheveux en désordre, il parlait. Alors, un mépris total m'a pris pour un homme pareil. J'ai pensé, d'après son accoutrement, ça devait être un artiste. Et j'ai pensé, voilà, c'est tout ce qu'on m'a toujours dit sur les artistes de Paris. Ils sont assis dans les cafés en train de discourir cela, et évidemment, sans jamais en faire. Et bien entendu, j'ai appris, peu de temps après, que c'était Giacometti, qui à cette époque était juste en train de commencer les œuvres les plus importantes du siècle. Je l'ai d'ailleurs rencontré un peu plus tard, mais ma première visite à un artiste, c'était curieusement pour Alexander Calder, le sculpteur américain, car je devais le rencontrer à Londres juste avant de partir. Et il n'était jamais arrivé à la soirée, il s'était perdu dans un brouillard. Il nous disait d'ailleurs depuis un kiosque téléphonique qu'il était dans un brouillard, il ne savait pas. Mais l'ami qui m'offrait ce dîner a dit, ça ne fait rien, Calder va à Paris et tu le trouveras là. Alors, ce que j'ai fait, comme je n'avais rigoureusement rien à faire, je suis allé le lendemain dans un tout petit hôtel près de la gare Montparnasse. Je trouve dans une chambre minuscule l'immense Calder à 4 pattes en train de plier un fil de fer et fabriquer son exposition pour la galerie Carré, qui allait d'ailleurs être l'exposition vraiment marquante de sa carrière. Il était connu avant la guerre parce qu'il avait été un ami de Miro. Et il avait vécu, il avait l'atelier à côté. Mais cette exposition chez Carré, avec une préface de Jean-Paul Sartre, c'était le grand point de départ de sa célébrité au moins. Calder, bon, à quatre pattes, évidemment, la dernière personne au monde qui voulait voir, c'était quelqu'un comme moi. Et il était occupé. Pour me sortir de sa chambre, il m'a dit, est-ce que je connaissais Catherine Dudley? Alors, bien sûr, je ne connaissais pas. Il dit, ben, va donc la voir, c'est une très chic fille. En fait, c'est une vieille dame. Mais c'est une, en effet, c'est une femme tout à fait hors de l'ordinaire. C'était l'une des trois sœurs Dudley de Chicago. Donc, Catherine connaissait tous les artistes, c'était une amie personnelle de Matisse, de Picasso, etc. Sa sœur connaissait tous les écrivains, dont Hemingway, Faulkner. Et le troisième, c'était celle qui avait découvert Joséphine Baker à Harlem, qui l'avait ramenée avec le Ballet Nègre à Paris. Donc, en arrivant chez Catherine, j'explique que c'est Calder qui m'a envoyé. Ah, mais vous êtes une amie de Calder, mais ça tombe bien, il vient dîner ce soir, venez donc dîner. Je suis allé dîner, Calder n'a pas laisser comprendre un instant qu'il ne connaissait pas du tout. et c'est exactement l'aspect charmant et généreux de Sandy. Et cette femme, Catherine Dudley, était dans un point de départ totalement rêvé pour un jeune homme connaissant personne. Parce que si moi je ne connaissais personne, elle connaissait tout le monde. Donc le Jacques Métier en question, je l'ai rencontré chez elle. Un an ou deux après, mais déjà j'ai rencontré Dorema qui venait juste de quitter Picasso, plutôt Picasso de quitter elle. Elle me présentait par la suite à beaucoup de gens qui ont été, surtout Carmen Baron qui était très important pour moi par la suite, et chez Don, j'ai rencontré Balthus. Venant du Nord, ou plutôt, enfin, d'un pays du Nord, je suis tombé dans la petite erreur que Paris était une ville du Sud. Finalement, ce n'est ni l'un ni l'autre. Sa valeur, c'est justement parce que ça se situe parfaitement entre les deux. Mais cette vie de dehors, cette foule, les gens qui y descendaient faire leurs achats en pyjama et en pantoufles, et les fenêtres toutes ouvertes et les chansons qui sortaient, Edith Piaf et Charles Trenet, c'était quand même autre chose que Birmingham et Londres, n'est-ce pas? Alors pour moi, c'était une vie tout à fait inouïe d'aisance et de joie. Bien évidemment que la vie à Paris à cette époque était parfaitement dure. On voyait dans toutes les boucheries les pieds de veau et les pieds de porc, on voyait aussi les têtes, mais on ne voyait pas du tout le morceau entre les deux, n'est-ce pas? Alors Dieu sait qui mangeait ça, c'était certainement pas moi. J'ai passé donc un mois, mon premier mois d'août à Paris, c'était ma première expérience d'une ville totalement déserte, n'est-ce pas? Car même en 1946, les Parisiens partaient. Je ne sais pas où ils allaient, mais ils partaient. Cette chambre d'hôtel, cette chambre d'étudiante, était dans la rue du Cardinal Lemoine, qui était particulièrement sinistre et vide. Et en le quittant, à son retour, j'ai juré de ne plus jamais mettre les pieds dans cette rue. Par la suite, j'ai eu un appartement où j'ai vécu pendant 20 ans, mais la vie est comme ça. J'ai descendu dans la rue du Cardinal Lemoine et j'ai traversé l'eau. Je pensais être à ce moment-là sur la rive droite. En fait, j'étais sur l'île Saint-Louis, n'est-ce pas? Et l'enseigne de la rue de l'Hôtel de la Côte d'Or avec la propriétaire Madame Masson, je pensais que c'était des poumons. Et en fait, j'ai eu une chambre. Et j'avais d'ailleurs avec moi un vélo. Ça m'a accompagné un certain temps. J'avais mon vélo. Et ma chambre était juste assez grande pour le lit et le vélo à côté. Et je partais tous les jours dessiner sur les quais de la Seine, avec de l'encre de Chine, comme toujours. Et puis je retravaillais mes dessins une fois chez moi. Et sans doute, toutes ces taches d'encre de Chine sur son papier mural le décourageait de plus en plus, parce que chaque fois que j'arrivais de quelque part, j'avais monté un étage dans son hôtel. Et finalement, j'ai fini tout à fait sur le toit, dans la plus petite chambre, sans doute, de Paris. Entre-temps, j'avais rencontré à Montparnasse, où je mangeais. Je mangeais dans un petit restaurant qui s'appelait la Soupe Merveilleuse. Et le patron était un Alsacien avec une moustache en guidon de bicyclette extraordinaire. Et dans ce petit restaurant, presque le premier soir, j'ai entendu deux jeunes voix en train de commander les plats avec une rapidité tout à fait incroyable. Et en sortant, ils sont arrêtés devant moi, ils avaient compris que j'allais anglais. Ils pensaient donc que j'allais armer de cigarettes anglaises, ce qui n'était pas vrai. Et c'était deux jeunes peintres qui s'appelaient Serge Rezvani et Jacques Lanzmann. Tous les deux, comme vous le savez peut-être, ont changé de métier, ont changé de discipline, ils sont maintenant des écrivains très connus. Mais à cette époque-là, c'était vraiment le lâché type d'artiste fauché. Mais on a abordé, n'ayant pas eu quand même les cigarettes anglaises, on a concocté un petit sympathie. Et Lanzmann m'a aussitôt emmené chez lui, où j'ai rencontré donc sa mère, Madame Lanzmann, une incroyable personne. La femme était juive et elle, c'était la mère juive dans toute son excellence. C'est-à-dire un jeune homme fauché, sale et affamé. Elle le prenait, elle enlevait tout ce qu'il avait sur le dos, elle mettait ça dans la baignoire et mettez-vous aussi dans l'eau. Pendant ce temps-là, elle s'entendait vous cuire un beefsteak et au bout d'une demi-heure, vous étiez un homme neuf, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, elle avait épousé en second noces, ayant fui son premier mari qui était très violent. Un Yougoslave qui s'appelait Mani Dibuli, un caractère tout à fait remarquable, qui avait été un homme très riche avant la guerre à Belgrade, et poète. Et il avait annoncé son arrivée à Paris, André Breton, et tout le parti surréaliste était sur le quai de la gare pour le rencontrer. Il avait dîné avec Breton, qu'il n'avait pas trouvé tellement intéressant, qu'il avait filé donc à Éloire, qu'il a passé aussitôt à Aragon, et au bout de 10 jours, Mani était sorti de ce parti surréaliste, mais il avait quand même ses inacquaintances. Et ainsi, j'ai fait la connaissance de Jean Cocteau, qui, je m'empresse de dire, était tout aussi brillant qu'on Jean le dit. C'était vraiment un homme très étonnant. Nous étions invités donc au dîner un soir avec Carl Cocteau, ou plutôt on était invités pour le café. Et en arrivant, Cocteau montrait tous les signes d'une grande fatigue, et le dîner n'avait pas été assez brillant pour lui. Mais en voyant la jeunesse arriver, il trouvait que la vie était meilleure. Surtout quand j'ai été présenté comme un Anglais. Ah, il me disait, ah, l'Angleterre, j'adore l'Angleterre, c'est le dernier home de la fantasy. Alors je savais exactement ce qu'il voulait dire, mais venant de Birmingham, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Ah, si. Alors il me raconte l'histoire de son oncle qui avait un immense château en Angleterre où toutes les pièces étaient consacrées à sa collection d'oiseaux et lui, il habitait dans un arbre. Thank you. j'ai expliqué, non, je n'ai pas expliqué que entre l'Angleterre et la France, j'étais devenu un sculpteur de préférence à la peinture, parce que mon séjour dans l'Ashmolean Museum avec des sculptures était déterminant. Et le secrétaire de l'école de ce temps-là avait étudié avec Despiau à Paris. Et il m'avait incité à travailler la terre anglaise et tout de suite je me suis senti beaucoup plus à l'aise. J'ai commencé donc à faire les sculptures. Et la première année à Paris, où j'avais donc cette bourse, et mon professeur à l'école des Beaux-Arts, c'était Marcel Gimond, qui était un homme tout à fait charmant, qui comprenait très bien que je n'allais pas dans sa classe, et il comprenait tout aussi bien que j'avais besoin de cet argent. Donc pendant 3 trimestres, il notait un travail excellent, n'est-ce pas, pour moi. Donc pendant 1 an, j'ai bénéficié de cette bourse, que j'ai donc partagée avec Rezvani Lanzmann. Et l'année après, où, bien entendu, la bourse n'a pas été renouvelée, c'est la mère de Serge qui a mis avec une princesse Jurjevic, qui habitait sur le quai de 4 septembre à Bologne, dans une immense maison qui était vide. Son mari, le prince Jurjevic, était à Washington en train de sculpter le président des États-Unis, et c'était un sculpteur. Et la princesse a pensé qu'il vaudrait mieux que cette maison soit habitée plutôt que de vide, parce qu'à cette époque-là, il y avait tout le problème de réquisition, n'est-ce pas? Alors, elle a mis dedans, nous trois. C'était une décision tout à fait funeste. Parce que si moi, j'étais jeune, bien sûr, active, les deux autres étaient deux diables, surtout Rezvani. Alors, l'hiver était dur, nous n'avions pas d'argent, et il fallait absolument nous chauffer. Alors, ils ont commencé à brûler le bois de la maison. Et quand on y pense, il y a beaucoup de bois dans une maison. Il y a tout le bois qui coule le long des murs, il y a le parquet, après ça, il y a les portes. Et après 6 mois, je m'appuie sur une table pour trouver qu'elle n'avait plus que 2 pieds. Et les chaises n'avaient que 3, c'était comme ça. Mais on peignait, on sculptait. Moi, j'avais un très grand atelier. Il y avait aussi une cave, et dans cette cave, il y avait une princesse de très haut rang, russe, qui vivait avec des chats. C'était assez curieux, comment dire. Mais quand l'été, le printemps et l'été est venu, un jeune marchand, enfin jeune dans la profession à Paris, est venu nous voir. Il s'appelait André Mag, Aimé Mag plutôt. Et comme ça, nous avons été exposés dans la première exposition des Mains éblouies en 1947. Voilà, et puis j'ai même fait la carte d'invitation. Et c'était, nous étions, un peu à cause de moi d'ailleurs, nous étions des artistes abstraits. C'était évidemment dans le mode du temps. J'étais arrivé d'Angleterre avec toutes sortes d'idées sur Paul Klee, etc., qui n'avaient pas encore été vus à Paris. Et dans ce temps-là, l'activité de Paris était telle qu'une exposition qui faisait un peu de parler d'elle était attaquée ou défendue. Il y avait beaucoup de presse, beaucoup de critiques. C'est très ouvert et très vivant. Alors, pour répondre aux critiques qui nous ont été versées sur la tête au sujet de cette exposition, j'ai fait une conférence dans l'ancien cabaret de Bœuf sur le Toit. Nous étions tous sur l'estrade, mais c'est moi, l'anglais, qui parlait à peine le français, qui a fait la conférence. Je me demande bien ce que ça a donné. Je m'appelle seulement la dernière phrase qui disait « Nous rendons au bon Dieu que nous ne connaissons pas ses fruits, ses couchers de soleil, ses femmes que nous ne connaissons que trop bien. »
Les gens qui n'ont plus rien à faire se suivent dans la rue comme des wagons de chemin de fer. Faire quoi faire? Faire friser les bonnes femmes qui n'ont plus rien à faire. Faire de leur faire friser, faire friser la catastrophe à leur mari qui s'approche et demande combien. Pas court croûte.
Croûte, 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 que coûte.
Combien ça coûte?
C'était Raymond Mason, Un homme dans la foule, une série de Michael Gibson, réalisation d'Odile de Pontual. Raymond Mason, Un homme dans la foule, une série de Michael Gibson.
J'ai fait la connaissance de Giacometti et les années vécues jusque-là se sont clarifiées aussitôt parce que voici l'homme dont le regard sur la vie, dont la rigueur de sa façon de vivre, de sa, la façon dont il parlait, une espèce de Socrate moderne, me redressait les chines aussitôt et mes velléités d'abstraction de ces choses-là sont disparues. D'ailleurs, je m'ennuie à périr avec cet art que je devais inventer pour moi-même. Non, j'étais venu d'un autre climat et Giacometti, c'est la seule personne à Paris capable de vous montrer le chemin. Je n'étais pas un ami de Giacometti, j'étais trop jeune, j'étais 20 ans plus jeune que lui. J'étais un jeune adepte, comme beaucoup. Et à ce titre, j'allais l'embêter l'après-midi pendant que lui travaillait. Je me demande bien pourquoi je ne travaillais pas moi. Très gentiment, il poserait son pinceau pour me parler. Et puis, quand il reprenait le pinceau, je comprenais que le moment était terminé. Mais il me donnait très souvent une demi-heure de conversation. Et ce que je ne me rendais pas compte, c'est qu'en partant, un autre jeune artiste arrivait. C'est peut-être une des raisons qui l'a poussé de travailler constamment la nuit pour être vraiment en paix. J'étais à cette époque déjà lancé sur tout de même des dessins d'or. Comme je n'avais pas d'atelier, j'ai dessiné beaucoup d'or. Et les personnages, au début, étaient donc très influencés par le dessin de Giacometti. Cette influence a été importante et je n'ai jamais cessé de fréquenter cet homme, même quand l'influence était beaucoup moins importante, même quand mon art commençait à être même radicalement différent. Et sa critique était très forte. C'était un homme, parfois, avec la critique très brutale. Mais extrêmement généreux. Et d'ailleurs, dans un premier temps où je n'arrivais pas à vivre, je faisais des dessins de Paris pour vendre aux touristes. Et j'avais apporté ça dans une galerie à Montmartre qui m'a dit, si vous avez besoin d'argent immédiat, il faut plutôt vendre ça dans les cafés. Et comme ma mère arrivait d'Angleterre pour la première fois, je n'avais pas un sou. Je voulais quand même quelque chose pour le nourrir, le faire bonne figure. Et proposant mes dessins à un homme lisant son journal au Debago, le journal se baisse et c'était Giacometti, qui, très étonné de me voir faisant cela, demande de voir les dessins, ne peut à peine déguiser son dépit de voir les dessins que je faisais, et me demande si je ne voulais pas prendre un verre. Alors, évidemment, j'étais épuisé avec tout mon marche partout. Et, assis à sa table, aussitôt, on était joint par 10 autres personnes. Et où, comme toujours, Alberto était au milieu d'une conversation menée par lui. Il était une maître absolue de dialectique, n'est-ce pas? Il le savait. Il parlait à des tables de café depuis 30 ans. Il pouvait lancer n'importe quel sujet, sachant qu'il allait le rattraper.
Quand il y a eu toutes ces personnes à table avec tes dessins, est-ce que c'est quelque chose s'est passé?
Oui. Il y a tellement d'histoires sur Giacometti que j'ai oublié la moitié. C'est-à-dire que j'avais quand même à trouver acquéreur pour ces dessins. Alors, je me suis éclipsé sur le point des pieds, laissant Giacometti au milieu de ses 10 amis. Et 200 mètres plus loin sur le boulevard, j'entendais quelqu'un qui courait après moi. C'est Giacometti. Mais Giacometti ne courait à peine parce qu'il avait une jambe qui traînait, n'est-ce pas? Il avait eu un accident de voiture, il avait eu le pied écrasé par une voiture. Et il marchait avec une certaine gêne, il courait très mal, et il courait néanmoins. Et c'était pour me dire, mais pourquoi tu es parti comme ça? Mais donc tu as besoin d'argent. Ah, ben oui, j'ai besoin. Oui, oui, oui. Mais alors, combien? Alors, de Romal à Gênes, il dit, je ne sais pas, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Alors, ça, nous sommes arrêtés sur 30 000, ce qui m'a complètement sauvé, bien sûr. J'ai mis au moins 6 mois pour réunir les 30 000 pour les rentes. Et je retourne chez lui et il me dit, comment? Mais non, mais tu te rappelles pas, tu me les as rendus il y a 10 jours. Je dis, comment? Si, je m'appelle parfaitement. Il a inventé toute une espèce de rencontre qu'on a eue où j'ai rendu les 30 000 francs. Voilà. Je vivais d'expédients, je faisais un peu de traduction, très mal. Au fond, pendant à peu près 10 ans, je ne sais pas du tout comment j'ai vécu. Tout ce que je sais, c'est que je n'en suis pas mort. Ma compagne de l'époque était une femme avec beaucoup d'allure qui avait rencontré Picasso avec son premier mari, dont j'avais été présenté à Picasso par une première occasion qui n'était pas une grande réussite pour moi. Il était à Valeris et on était plusieurs à qui il voulait montrer l'endroit où il pensait faire le fresque pour la chapelle désaffectée de Valeris. Alors, à l'époque, ces ateliers consistaient de plusieurs espèces de grands hangars. Et une fois que nous entrons dans ce hangar où était simplement accroché des immenses toiles vierges, n'est-ce pas? Et qui a dit oui, mais voilà, mais c'est pas tout, maintenant il faut que je les peigne, il faut que je les peigne, n'est-ce pas? C'est affreux. Alors moi, l'humour britannique, je dis, mais maître, une fois terminé, c'est encore plus affreux. L'humour britannique, ça marchait pas du tout. Après ça, il a dit oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais de toute manière, c'est grand, c'est aussi grand que la chapelle Sistine. Alors ça tombait mal aussi parce que je venais dans mes traductions de traduire un livre sur la chapelle Sistine. Je connaissais exactement la dimension. Et je dis non. Il a dit, eh bien, presque. Alors le neveu de Picasso m'a sorti de l'atelier en vitesse pour que ça n'aille pas plus loin. Quelques années plus tard, mais nous sommes encore, je dis quoi, 55 ou... j'ai eu une péritonite et j'étais en convalescence dans le midi et je me sentais faible, bien entendu. Je pensais que ce que j'aimerais faire serait quelque terre cuite. Et je pensais donc à Picasso. Je pensais que Picasso pourrait me faire introduire dans un atelier de terre cuite à Valeris. Je savais que Picasso se trouvait sur la plage de Gauche-Juin. Le matin, il prenait toujours son bain. D'ailleurs, partout où Picasso a vécu sur le Méditerranée, il était toujours à la mer à midi. Il arrivait à midi et sur une plage parfaitement normale avec 200 personnes qui prenaient le soleil. Mais à l'arrivée de Picasso, ce n'est pas 200 personnes en train de prendre le soleil, c'est 200 personnes en train d'attendre Picasso. Et une queue importante se formait. Picasso, un par un, recevait tout le monde et... en sautant un petit peu dans la mer pour se rafraîchir, c'était assez extraordinaire. Alors j'ai dit à un de cette foule de l'approcher et j'avais apporté avec moi les photos de mon œuvre telles que ça existait à l'époque. Et je lui demandais si je pouvais lui montrer les photos. Il dit, les photos, c'est la seule chose que j'aime. Il saute dans la mer, j'étais assis à attendre mon tour et puis 2 heures arrivent. Tout le monde s'en va. Et lui, il disparaît dans le restaurant de la plage avec ses amis. Et je suis seul sur la plage. Je me suis dit, bon, j'ai regardé Picasso, mais ça n'a pas apporté grand-chose. Quand Picasso ressort du restaurant pour dire, alors, tu viens ou tu ne viens pas? Alors, si, je le fais. Alors, une fois à table, nous étions parmi, je ne vais pas citer le nom, mais enfin, c'est les amis intimes de Picasso à l'époque. Tous tellement gonflés de leur importance qu'ils étaient parfaitement silencieux. Ils mangeaient et puis c'est tout. Picasso, par contre, avait une conversation particulièrement, bien sûr, brillante et extrêmement périlleuse, la façon qu'il a menée. Moi, je cause assez facilement et nous avons parlé pendant tout le déjeuner ensemble. Et vers la fin du repas, qui se situait vers 5h30, les danseurs espagnols sont arrivés et ils dansaient sur la table. Subitement, il arrête tout ça. Il dit, mais ce n'est pas tout, il y a un jeune homme qui est venu nous montrer son travail. Alors, c'est épouvantable, n'est-ce pas? Ces 20 regards, alors surtout la pauvreté de ce que j'avais sorti de mon carnet. Heureusement, dans tout cela, il y avait la photo de tramway de Barcelone que j'avais donc fait en 53.
Un relief.
Un haut relief, mais c'est mon premier haut relief. Alors, donc, bien sûr, Barcelone, pour Picasso, il le connaissait. Il a beaucoup aimé ça en disant, ce que j'aime là-dedans, c'est à toi, c'est toi qui as fait ça. Parce que maintenant, en peinture, on fait les formes de Picasso, la couleur de Matisse, les matières de Braque, on fait une salade. Là, c'est à vous. Et il a même dit à un sculpteur présent, viens voir ça. Alors le sculpteur se lève, il regarde avec un œil tordu, il dit, oui, c'est pas mal, mais c'est pas de la sculpture. Alors Picasso retorte, eh bien, c'est justement pour ça que je l'aime. Parce que le sculpteur, ça m'en...
Mais, qu'on voit danser le long du golfe clair à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges. C'est pur, la mer, bergère d'azur, infinie.
Évidemment, je ne pouvais pas fréquenter Picasso comme on ne peut pas fréquenter les Rothschild, n'est-ce pas? C'est un monde à part. Un monde où vous entrez dans une espèce de cour, où vous n'êtes plus libre, et ça ne m'intéressait pas tellement. Mais mon admiration pour l'homme est absolument entière. Surtout, évidemment, dans les grandes compositions, je le trouve le grand maître, la composition qui m'intéresse particulièrement dans l'œuvre d'art. Non, mais après Giacometti, la rencontre déterminante, c'était celle de Balthus. J'ai eu beaucoup de chance, là, parce que Balthus, dans les années 50, était invisible et très difficile à rencontrer. Mais, comme j'ai dit à un autre moment, par dormant, j'avais rencontré donc Carmen Baron, qui était de premier noces la femme de Pierre Coll, qui était un grand marchand juste avant la guerre, pendant la guerre, dont les deux artistes préférés étaient donc Balthus et Derain. Alors Carmen s'est remariée, Pierre Coll mort, et elle vivait dans un immense appartement en face de l'hôtel Matignon, où elle recevait, sans pompe, des artistes de toutes sortes, peut-être le dernier salon artistique de Paris. Et Balthus, qui habitait donc à ce temps-là dans le Morvan, quand il venait à Paris, c'était son point de chute. Il habitait chez Carmen. Alors j'ai passé beaucoup de soirées avec Balthus, qui s'est chauffé envers moi, je pense, parce que j'ai porté le premier soir un paire de pantalons écossais. Et c'était des pantalons écossais que j'avais achetés en solde en Angleterre. Et c'était, par chance, le tartan du clan de son aïeul, Lord Byron, Gordon. Hein? Alors, on a les conversations et sortant de chez Carmen, on a marché toute la nuit parce que Balthus a beaucoup d'habitudes anglaises, ça c'est très anglais ça, de se raccompagner comme ça. Une fois arrivé à la porte, l'autre raccompagne l'autre et ça peut durer des heures comme ça. Et donc, j'ai fréquenté cet homme, on buvait du whisky dans ce merveilleux salon. Les semaines durant, mais je n'avais toujours pas vu de Balthus, parce que ça c'est tout aussi rare que lui, n'est-ce pas? Et puis donc, à un moment donné, il devait faire sa, peut-être sa première rétrospective dans l'ancienne galerie Wildenstein. Et toute cette toile était montée à Paris. Il s'était installé dans l'ancienne atelier de Francis Gruber. Et voilà, typiquement Balthus. Il avait l'intention de retoucher toute cette toile par la lumière de Paris. Et certainement, il l'a fait. Et quand un jour, j'ai eu le droit d'aller voir, alors, n'est-ce pas, je voyais d'un bloc toute l'œuvre d'un artiste rare. C'est un moment très extraordinaire. J'ai compris que c'était l'autre grand pôle de l'art figuratif qui se présentait à moi. Là où Jacques Mathieu était l'exigence et l'œil aigu qui se concentrait de plus en plus, Balthus, c'était exactement le contraire, c'est le grand étalage de forme, mais de même les deux choses se complétaient admirablement. Et voilà, ça c'est à peu près le parcours des artistes vraiment important. J'ajouterai juste à la fin, néanmoins, évidemment Francis Bacon, que j'avais rencontré lors de ma première exposition en 1954 à Londres, qui a été extrêmement généreux dans son appréciation des 16 sculptures que j'avais à l'époque. Je l'ai perdu de vue pendant de très longues années. Je l'ai retrouvé depuis 5 ou 6 années où je le vois assez constamment. Comme beaucoup d'artistes, je pense, c'est impossible d'être directement influencé par Francis parce que son sujet est tellement spécifique et tellement personnel, mais néanmoins tout à fait authentique, n'est-ce pas? C'est la vie qu'il vit, lui, mais ce n'est pas la vie que je vis, moi. Mais toute personne qui a vu la façon que Francis peint et la façon qu'il traite la chair, et Francis, le coloriste de génie, ne peut pas ne pas être influencé.
C'était Raymond Mason, un homme dans la foule, une série de Michael Gibson, réalisation d'Odile de Pontual. Raymond Mason, un homme dans la foule, une série de Michael Gibson. Aujourd'hui, Raymond Mason nous parle de quatre de ses grandes sculptures, la foule, bronze monumental de la cohue du boulevard Saint-Michel, et trois grandes fresques en résine époxyde haute en couleur, le départ des fruits et légumes du cœur de Paris, une tragédie dans le Nord et les vendangeurs. Alors cette première grande pièce s'appelle donc La foule.
Oui, elle date de 1963-5 et le bronze a été fini en 68. Ça représente le point culminant de toutes mes scènes de rue. Et cette fois-ci, l'accent est sur l'élément humain, à l'exclusion de tout décor. J'ai toujours vécu tout près du boulevard Saint-Michel, et avec son plan incliné et la foule descendante, comme je suis assez grand de taille, je dominais les têtes, et j'avais l'impression d'une espèce de tourbillon qui arrivait vers moi. Même ce tourbillon se traduit plus tard dans mon œuvre, par la spirale qui est omniprésente dans pas mal d'œuvres. D'ailleurs, c'est la première grande sculpture. Il y a quand même 99 personnages où j'avais l'impression d'avoir un message à donner, n'est-ce pas? Alors, l'œuvre débordait sur un contexte littéraire, musical, artistique, enfin, Michel-Ange, Hugo, Mussorgsky, Manzoni, le romancier italien. Bon, je l'ai exposé pour la première fois chez Claude Bernard en 65, en plâtre. Et Jean Bourré, la critique, avait dit à ce moment-là, Notre-Dame au milieu d'une galerie. Plus tard, Pierre Matisse de New York l'a mis en bronze. et je l'ai beaucoup contrarié parce qu'à ce moment-là, j'ai travaillé pendant 2 ans sur la crête de la sculpture, où justement, il y avait une forme qui, pour moi, représentait une vague. Cette œuvre a aussi inauguré le CNAC, rue Berryer, et bien en mai 68, et quand De Mauro a inauguré cette exposition, mon boulevard était en feu et en sang. Bon, ça, c'est dans, ce sont les dessins qui originaient dans les années 50 et les années 60, où la foule avait encore une certaine allure, maintenant, bien sûr, le boulevard Saint-Michel est devenu le boulevard Sébastopol, et puis ça s'est américanisé, et bon, maintenant, ma foule, on dirait, revue et corrigée par Walt Disney.
Nous entrons tout à fait dans la couleur. Ce sont les Halles, c'est le départ des fruits et légumes des Halles. Et ça, tu l'as fait donc en 69-70.
Oui.
C'est une œuvre sur laquelle tu as mis la couleur.
Oui, mais alors...
qui est contraire, complètement contraire à tous les canons de l'esthétique admise aujourd'hui.
Oh, même dans ce temps-là, comment je... Parce qu'au moment de finir cette foule, tous ces bronzes, j'avais noté dans mon carnet, j'avais envie de vraiment de faire les sujets qui me rendaient heureux, n'est-ce pas? Alors j'avais noté le voyage, parce que le voyage, dans ce temps-là, plus maintenant, mais dans ce temps-là, l'idée de monter dans une voiture, s'en aller, c'était... le repas du soir avec les enfants. Je l'ai essayé, mais je n'ai pas pu le mener à bout, parce que c'était en 3 dimensions, beaucoup de personnages. Et le marché, simplement, parce qu'on est toujours heureux dans un marché. Et puis là-dessus... on apprend que les Halles centrales devaient disparaître. Voilà pourquoi j'étais attiré vers le sujet. Et ma foi, dès qu'on a été confronté par les Halles la nuit, l'explosion de couleurs était telle que c'était totalement impossible de penser autrement. Et comme j'ai été peintre au départ, c'était assez naturel. Et au fond, ça m'a complètement débloqué un amour pour la couleur qui était ensevelie depuis tant d'années, n'est-ce pas? Oui, le titre, c'est « Le départ des fruits et légumes du cœur de Paris », n'est-ce pas? Voulant dire non seulement le centre, mais le cœur de chaque Parisien. Bon, alors, je t'ai dit que je voulais faire le marché, mais quand il s'agissait des Halles centrales, il fallait quand même que je le connaisse mieux, parce que, comme beaucoup de gens, je le connaissais la nuit jusqu'à minuit, je le connaissais au petit matin, mais les Halles, c'était à 3 heures du matin. C'est là où tous les fruits et légumes étaient à leur point culminant. N'est-ce pas? Le premier nuit, je me suis levé comme c'est appelé, n'est-ce pas? Un ami m'avait laissé chez moi un vélo moteur. Alors je monte dessus, je fonce aux Halles, ignorant totalement qu'on ne pouvait pas entrer dans les Halles, ni sur un vélo moteur, ni dans une voiture, ni quoi que ce soit. Alors je suis aussitôt un brigadier. Et j'avais mon carton de dessin, mais au lieu de pouvoir dessiner, on m'a emmené au poste, n'est-ce pas? Où j'ai passé la nuit sur un banc. Alors, ceci est très important, ça m'a permis de faire la sculpture. J'ai passé ma nuit sur le banc avec tous les tireurs de diable qui faisaient un travail en noir et qui devaient passer 2 heures, presque chaque nuit, sur un banc. Je sais quelle punition ça représentait pour eux, mais enfin... Alors, j'ai fait connaissance avec ces gens. Et il faut dire que quand, à 8 heures du matin, j'y étais encore, je commençais vraiment furieux. Et quand le commissaire est arrivé, il m'a expliqué que j'étais toujours là parce qu'il voulait savoir à la préfecture si ce vélo moteur n'était pas volé. Ah, j'ai dit, mais puisque vous êtes en train de fouiller à la préfecture, vous verrez peut-être que la lettre de recommandation pour ma carte de résident privilégié est signée par Couvre de Muville. 30 secondes plus tard, j'étais libre sur le trottoir. Il faut ajouter qu'à ce moment-là, Couvre de Muville était Premier ministre. Mais cette histoire d'avoir connu les tireurs de diable, ça m'a beaucoup aidé parce que dessiner la nuit,
D'abord, on ne voit rien. Et j'entends le bruit de parce que j'ai porté ma casquette, mon béret écossais à l'époque. Alors, on me disait, ah, tiens-toi de là, casquette, et puis comme ça, je pouvais esquiver la chose, continuer à dessiner. Et bon, j'ai approfondi donc ma connaissance de Halle, et très vite, je suis arrivé à la conclusion que tout le quartier était tenu par une même trame, n'est-ce pas, que cette magnifique église de Saint-Eustache qui dominait toutes ces marchandises et tous ces personnages avait une grande dominance. Donc, ce n'était pas seulement le départ des fruits et légumes, c'est aussi le départ de tous ces hommes et ces femmes que tu vois dans ce petit cortège, n'est-ce pas?
Alors justement, à ce propos, il y a des critiques qui ont dit que ton œuvre était vulgaire, et quand je regarde la femme qui est ici au milieu, n'est-ce pas, on peut dire évidemment qu'elle ne sort pas d'un salon du 16e ni du 7e arrondissement.
Oui, mais enfin, c'est très exactement, elle ne sortait pas d'une salle de 7e.
Voilà.
C'est une femme qui avait passé sa nuit dans le froid et peut-être la pluie avant ses légumes, n'est-ce pas? Dans une parfaite bonne humeur, d'ailleurs. Il faut dire que ces grosses lèvres rouges, c'est aussi pour moi un des fruits qui s'en allait, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, c'était le départ du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Ces visages-là, on ne les verra plus jamais. C'est aussi le départ du naturel dans la ville. Et c'est surtout ça que je voulais souligner. Et que, comme nous sommes tous d'accord, que maintenant, les Halles centrales, c'est un paradis perdu.
Là, nous sommes devant une œuvre qui a un caractère plus tragique. Il s'agit de quelque chose que tu as fait au sujet d'une tragédie minière dans le nord de la France.
Oui, ça s'est passé tout de suite après le jour de Noël en 1974. Et je me trouvais dans la petite maison que j'ai dans le midi, sous un soleil éblouissant, la chambre était parler pour les fêtes, et je lis dans mon Provençal la nouvelle de cette tragédie minière à Liévin, dans le Pas-de-Calais, où 45 mineurs avaient perdu leur vie. Et accompagnant l'article, il y avait une photo de presse où on voyait les bâtiments de la mine, et devant, sur le carreau luisant de pluie et de cette petite foule éparpillée, inquiète. Et cette image de pavé de briques et de crachin me ramenait évidemment chez moi, dans le centre d'Angleterre. Et du coup, je me suis senti beaucoup plus près de cette scène que je regardais, que la scène où je me trouvais, n'est-ce pas? Alors tout de suite, j'ai fait un petit bas-relief en hommage. Bas-relief que d'ailleurs, j'ai coloré dans la journée. Et pour moi, c'était à peu près la fin de cet épisode, sauf que le printemps suivant, je me trouvais dans la Pas-de-Calais en voiture. J'ai vu Lens, Liévin. Ah, alors évidemment, j'ai bifurqué pour voir cette petite ville où la mine est désaffectée, n'est-ce pas? Mais j'étais évidemment tout de suite touché de nouveau par la beauté de l'architecture industrielle du 19e siècle. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire une grande sculpture en hommage à mon passé, mais aussi bien sûr à cette tragédie. J'ai tenu absolument à ce que le sentiment domine, n'est-ce pas? Et en disant ça, évidemment, ça veut dire que c'est presque quelque chose de nouvel. Nous savons, après ce qu'on a dit, que le contenu n'est pas très important de nos jours, et le sentiment, encore moins. On est très habitué à un art sensationnel, n'est-ce pas, qui fait appel au sens. Mais un art de sentiment qui parlerait au cœur, c'est moins courant. Et si ce sujet me le permettait, Normalement, dans un grand sujet comme ça, j'essaie de varier les visages, les expressions, pour donner un mouvement à travers la composition. Mais ici, évidemment, dans une scène de chagrin collectif, je ne pouvais me permettre que le sourire d'un vieil homme qui essaie de consoler la petite fille.
Alors, à l'autre bout de cette salle, nous avons une scène qui se passe dans les vignes.
Oui, tu as peut-être remarqué que tous mes sujets sont extrêmement simples, n'est-ce pas? D'abord parce que y a un problème de nos jours, étant donné que les croyances et les religions se sont effondrées de pair, ça veut dire que le sujet automatique n'existe plus, n'est-ce pas? Et aussi, nous sommes dans une époque sans mythe. Quel est le sujet qui peut s'adresser à une grande quantité de gens, n'est-ce pas? Parce que je tiens absolument à ce que je sculpte soit adressé et compris par le plus grand public possible, n'est-ce pas? Bon, tout ça pour dire que mes sujets sont d'un thème, parfois on dit simpliste, mais je cherche des thèmes universels. Et quand on dit les vignes, ma foi, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. La plupart des gens, évidemment, pensent aux raisins en forme liquide, mais ici, il s'agit des raisins de table. D'ailleurs, ça dépique le champ à côté de ma maison dans le midi, où mes voisins de 25 ans, et mes amis bien sûr, sont en train de cueillir le raisin de table, Alphonse Lavallée. Je dis le nom parce que c'est un gros raisin, n'est-ce pas? C'est un raisin superbe à regarder, un peu moins à manger. L'autre sujet, évidemment, c'est le soleil. Le soleil est présent par les hommes, n'est-ce pas?
Et par le geste de bras de cette femme qui se couvre les yeux.
Oui, ça aussi, la paysanne, je l'appelle paysanne parce qu'elle s'appelle elle-même paysanne. D'ailleurs, c'est beau, lui s'appelle paysan. En fait, ce sont les cultivateurs, assiésés d'ailleurs. Oui, elle lève le bras, qui donne l'impression qu'elle s'habite ses yeux de soleil, mais pour mieux nous regarder, n'est-ce pas? Donc, il y a ce contact. Je commence à être assez fier de moi, dans cette histoire de mettre dans mes grandes sculptures un personnage qui faisait un geste directement vers le spectateur, jusqu'à ce que j'ai lu quelque part qu'Alberti, en 1400, avait dressé toutes les modes de faire des tableaux, et puis c'était impératif pour lui qu'il devait avoir un personnage grand de nature, premier plan, qui s'adressait au public, dont, enfin, c'est très heureux d'être d'accord avec lui. Et j'essaie de rendre la richesse et la beauté et la couleur, n'est-ce pas, de cette scène. Le seul retombé malheureux de cette sculpture, c'est que la paysanne en question ne me parle plus, parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas assez flattée dans la... En fait, elle est superbe et remplit tout un champ elle-même.
Lorsque je vois, tout au long des trottoirs, palpitantes flammes de vie, les gens qui scintillent autour de moi, j'oublie mon affliction, le vide dans la constellation de ma vie, l'endroit où se trouvait une étoile. Et même si l'étoile polaire était soufflée comme une chandelle et tout le firmament dérivait en désarroi, dès lors qu'une pléiade de gens se trouve déployée autour de moi et que je vois la longue voie lactée de la rue allongée avec les gens qui scintillent sur les trottoirs, j'oublie mon affliction. D. H. Lawrence. C'était Raymond Mason, Un homme dans la foule, une série de Michael Gibson, réalisation Odile de Pontual.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois les 29 septembre et les 6 et 13 octobre 1985.